On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver comme chaque soir sur France Bleu pour votre émission de confidence. On se dit tout et ce soir on va voyager. Pas n'importe comment puisqu'on va partir à l'aventure. On va en effet parler des road trips, partir avec juste un sac à dos, faire le tour du monde, louer une voiture dans un pays étranger et traverser un nouveau continent, faire le tour du monde en van, à vélo, à pied. Une expérience extraordinaire, une autre façon de voyager et c'est peut-être votre histoire à vous aussi qui êtes parti voyager comme ça, à l'aventure. Alors je dis à l'aventure mais c'est pas toujours le cas, souvent on balise quand même un petit peu le voyage, on se met des points d'étape mais on ne s'interdit rien et surtout pas les rencontres sur place. Racontez-nous votre road trip, votre voyage différent, votre tour de France, d'Europe ou du monde au 0810 055 056. On se dit tout avec ce soir deux aventuriers, Elisa Frindic-Pierret et Bertrand Lanneau, co-auteurs de Drive Your Adventure aux éditions de La Martinière. On va les écouter tous les deux durant une heure chacun, vous serez nos grands témoins. On va commencer avec vous Bertrand, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes parti 6 mois, vous avez fait l'Europe à bord d'un van à travers 25 pays et ce que vous avez vécu, on le voit bien dans le livre, c'était pas forcément ce que vous aviez prévu au départ.
Ah non, c'est rarement ce qui est prévu. L'avantage de partir en van comme ça, c'est justement d'aller vers l'inconnu. On avait certains points d'étape et entre, c'était complètement libre et surtout les imprévus arrivaient très très régulièrement.
C'est un carnet de voyage, il y a des magnifiques photos, il y a des recettes de cuisine, il y a des rencontres incroyables et puis c'est aussi un peu le livre de Joe la débrouille, savoir comment vivre dans 6 mètres carrés à deux dans un van.
Oui, et c'est assez particulier, ça peut être... On a eu l'occasion de le faire pendant 6 mois en Australie, du coup on était déjà un petit peu préparé avant ce voyage-là, mais c'est une organisation qui se prépare et qu'il faut penser. Après, le van qu'on avait là était vraiment pensé comme un bateau. Donc chaque centimètre carré du van était vraiment très réfléchi pour tout ranger, ce qui était vraiment, vraiment très agréable pour nous.
On aura l'occasion d'en reparler, mais les rencontres, c'est peut-être ce qui est le plus important quand on part comme ça en road trip.
Oui, complètement. On a eu la chance de voir des paysages splendides dans différents pays. Mais ce qui nous rendait le plus heureux, surtout après coup, ça reste les rencontres qu'on a pu faire dans les différents endroits.
Ah mais on va en parler ce soir avec vous et avec vous qui nous écoutez aussi ce soir sur France Bleu. Vous avez connu ça, vous êtes parti à l'aventure, vous êtes parti voyager, vous avez fait un road trip. Venez nous raconter votre expérience, l'organisation, comment ça se prépare financièrement aussi, comment on gère si on part avec ou sans enfant. Et puis les rencontres sur place, en France, en Europe, autour du monde. Venez nous raconter vos voyages à vous. C'est le sujet d'On se dit tout jusqu'à 22h.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Comment avez-vous préparé votre voyage en aventurier ? J'aime bien dire aventurier, mais c'est vraiment pour donner le ton. Est-ce que vous êtes du genre, on prend un billet d'avion, on arrive sur place et on verra bien ce qui va se passer ? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez tracé un grand et beau parcours pour découvrir au maximum ces nouvelles contrées ? Ce soir, on parle des road trips, partir à l'aventure, tout seul, en couple, en famille, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, une année entière peut-être même, le faire à pied, à vélo, en voiture, en van, dormir au petit bonheur la chance, chez l'habitant, en caravane. Venez nous raconter vos aventures au 0810 055 056. Bertrand Lanneau est notre grand témoin pour cette première heure, auteur, co-auteur de Drive Your Adventure aux éditions de La Martinière avec Elsa Frindic-Pierret qui sera avec nous dans la deuxième heure. Et on va accueillir tout de suite Rockin' Robin, j'adore. Bonsoir Rockin' Robin.
Bonsoir.
Je découvre votre nom à l'instant en fait, c'est pour ça que j'étais un peu surprise. C'est un nom de star ça
Bientôt.
Bientôt. Vous avez voyagé entre la France et l'Australie. Vous êtes parti quand, d'où, qu'est-ce que vous avez fait ?
Alors, je suis parti fin 2013 et j'ai commencé par un petit tour d'Europe, donc ça m'a pris juste 3 mois. Et je suis parti dans la perspective de faire de la musique, uniquement de la musique sur mon voyage, donc sans un sou et en finançant le voyage uniquement grâce à la musique, donc c'est-à-dire jouer dans la rue. Essayer de trouver des concerts dans des bars, dans des villes que je connais pas, en se débrouillant, rencontrant des gens. Donc vraiment l'aventure, quoi, sans rien.
Vous aviez un moyen de locomotion, comment vous êtes parti ?
Non, je suis parti en stop.
En stop, ok.
Donc j'avais mon sac à dos, ma guitare, des harmonicas, et puis je suis parti comme ça.
Et ça a marché ?
Et ça a marché, mais j'ai atteint l'Australie au final, au bout de 2 ans.
C'est dingue.
En passant par l'Europe centrale, l'Europe de l'Est... ouais, donc l'Ukraine, la Roumanie, Bulgarie, puis j'ai passé en Turquie. Après j'ai pu prendre un vol pour l'Inde. Et j'ai fait 3 mois et demi en Inde comme ça, en jouant dans les rues. Donc c'était parfois un petit peu le bazar, mais c'était très très intéressant. Et ensuite, l'Asie du Sud-Est. Et finalement, j'ai pu prendre un dernier vol depuis Singapour pour l'Australie.
Et ça a duré combien de temps tout ça, en fait ?
En tout, ça m'a pris 2 ans.
2 ans ? Avec, ça, j'imagine, des rencontres incroyables.
Ah oui, ah, c'était formidable parce que généralement, grâce à la musique, j'arrivais dans un petit village où il n'y avait pas beaucoup de tourisme, surtout dans Europe de l'Est. Et je me mettais sur la place du village, je jouais de la musique et puis les gens venaient à moi. Genre, mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes perdus ? D'où vous venez ? Où est-ce que vous allez ? Et forcément, des rencontres fabuleuses, des gens qui m'invitent chez eux, qui me font découvrir leur culture, leur famille. C'était vraiment formidable.
Alors vous, l'attraction, c'était vous et la musique. Est-ce que pour vous, Bertrand, l'attraction, c'était le van ? On parle d'Europe de l'Est. Est-ce qu'il y a eu aussi cette réaction, genre, oh, comment vous faites ? Vous voyagez comme ça ? Est-ce que le véhicule, finalement, a été l'attraction ?
Il a été un petit peu l'attraction, surtout qu'il était tout neuf et très beau, c'était vraiment un dernier cri. Et il parlait, justement, Robin parlait des pays de l'Est. On a eu quelques retours, les gens étaient un peu surpris quand ils nous voyaient en Roumanie, par exemple, qu'on a adoré. Quand ils nous ont vu arriver avec notre van avec 2 planches de surf sur le toit, en se disant qu'est-ce qu'ils font là, quoi. Et c'est vrai que c'était. On a toujours eu un regard bienveillant, en tout cas.
Alors pour Robin, Working Robin,
oui,
c'était
Rockin
la musique.
Robin,
vous aviez un truc, vous aussi, le surf, c'était ça ? On essayait de surfer un maximum. Bon, en Roumanie, c'est plus compliqué, mais
oui.
C'était quoi le fil conducteur, finalement, de votre voyage ?
C'était pas tellement le surf ni le sport. C'était vraiment, on essayait, nous, en amont, parce qu'on a quand même... Rockin Robin, il a eu la chance de pouvoir voyager pendant 2 ans et de pouvoir gérer son temps. Nous, on avait quand même un peu de temps imparti. Il fallait qu'on fasse ça en 6 mois, cette grande boucle. Du coup, on avait quelques catégories qu'on s'était données à l'avance et qu'il fallait qu'on respecte. Et c'était notamment d'essayer de trouver des cuisines locales et d'aller vers les gens pour découvrir des cuisines locales. Et du coup, on essayait de prévoir au maximum, même si ça a été très très peu le cas au final, de prévoir les rencontres. Et au final, ça a été vraiment le plus souvent les rencontres fortuites qui ont été les plus belles. On a notamment une rencontre en Pologne avec une famille franco-polonaise qu'on a rencontrée et à qui on passe le bonjour s'ils nous entendent. Ils se reconnaîtront et qui nous ont appris beaucoup de choses. Et c'était une magnifique surprise et vraiment complètement par hasard après avoir en plus passé pour le coup 8 heures de route. Quoi.
Et Rockin' Robin, vous aussi, il y a une personne, une rencontre en particulier sur ces 2 ans. Alors je sais qu'en 2 ans, on rencontre beaucoup plus de monde qu'en 6 mois, mais est-ce qu'il y a un souvenir comme ça qui vous revient où vous vous dites waouh, j'ai quand même vécu quelque chose d'énorme.
Oh oui, alors là, il y en a beaucoup, beaucoup. Je peux donner une anecdote, par exemple.
Bien sûr.
Je suis arrivé, le premier jour, je suis arrivé en Ukraine. Donc, je passe la frontière depuis la Slovaquie en stop. Mon chauffeur me met de force, en quelque sorte, dans un train. J'essaie de lui expliquer tant bien que mal que j'allais...
Allô, vous êtes toujours là ? Je crois qu'on a perdu. Ah si, vous êtes là, Rockin' Robin ?
Oui.
Oui, on vous avait perdu, je suis désolée.
Ah, bon, ben j'étais dans un train, du coup. C'est pour ça que vous m'avez perdu, peut-être.
Ok, toujours en train de voyager, en fait.
Oui, voilà. Et au final, j'arrive dans une ville qui n'était pas la ville prévue, très tard le soir. Et il n'y a plus personne dans les rues, c'est tard. Et finalement, j'arrive à rencontrer un groupe de musiciens qui sont sur une terrasse d'un bar et qui boivent de la vodka. Et comme je débarque avec ma guitare sur le dos, ils m'invitent à table à chanter des chansons avec eux. Et puis, on a passé toute la soirée ensemble. Et à la fin, ils ont dit, viens dormir chez nous. On n'a pas beaucoup de place, on n'a pas grand-chose, mais tu es le bienvenu. Sois le bienvenu chez nous.
J'aime bien cette philosophie. On n'a pas grand-chose, mais sois le bienvenu. C'est beau, ça. Hein,
ah oui, mais généralement, moins on a, plus on offre et plus on reçoit aussi.
Ouais, je vois Bertrand qui hoche de la tête,
mais
ça a été le cas aussi.
Je suis tout à fait d'accord, ouais. Je suis tout à fait d'accord, on a eu le sentiment, en tout cas dans les pays de l'Est, qui sont moins riches que les pays de l'Ouest, en Europe ou les pays du Nord, d'avoir un vrai contact, un contact vraiment plus simple vis-à-vis des personnes qui vivaient sur place, quoi. Et je rejoins tout à fait Rockin' Robin là-dessus, où moins on a, plus on offre en général. Et ça s'est complètement ressenti pour nous aussi.
Et comment on échange, Rockin' Robin, en traversant autant de pays ? La langue universelle, c'était quoi ? C'était l'anglais pour vous ? Vous avez réussi à vous débrouiller avec tout le monde ?
Alors oui, c'est un mélange d'anglais, de signes. Quand on est dans un nouveau pays, on apprend les mots basiques, hein, bien sûr, qui aident un petit peu. Et puis il y a des mots universels, comme musique, musica, ça tout le monde comprend, par exemple. Et ensuite, c'est la bonne volonté des gens.
On arrive toujours à se comprendre, j'ai l'impression, non ?
On arrive toujours à se comprendre. Dans certains pays, c'est plus compliqué. Par exemple, le Vietnam, les gens sont un peu plus difficiles d'accès. Mais en Europe de l'Est, c'était plus simple. Les gens sont très, très ouverts, très accueillants. Et même s'ils ne vous comprennent pas, ils vont faire l'effort d'essayer d'approfondir la conversation.
Mmh. Merci beaucoup, Rockin' Robin, d'être venu témoigner ce soir. Et merci pour ce beau voyage. Il en reste une trace quelque part ? On peut vous suivre ou pas ?
Oui, j'ai une page Facebook. Je fais de la musique maintenant de retour en France. Donc, ça s'appelle Rockin' Robin, The Traveling Bluesman.
Waouh. Comme ça, tout le monde va pouvoir aller cliquer sur votre page. Merci encore, Rockin' Robin. À bientôt sur France Bleu. On parle ce soir des road trips avec vous qui avez voyagé ou qui préparez peut-être un road trip. Comment ça se prépare? Comment ça s'anticipe aussi? 0810, 055, 056. Nous serons dans un instant avec Anne depuis l'Alsace qui revient d'un road trip de 6 mois au Canada et en famille.
Partagez vos bons conseils. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu. Avec Vanessa Lambert.
Et ce soir, on parle des road trips, un voyage sur la route, littéralement. C'est pas très poétique dit comme ça, parce que vous, c'était mieux, forcément. C'était l'aventure, c'était drôle, c'était épique, c'était poétique. Ça n'a pas toujours été très simple. Vous êtes parti faire le tour d'un pays, d'un continent, du monde même, et vous avez tout planifié ou presque. Racontez-nous comment vous vous êtes organisé, comment on fait pour préparer son budget, comment on fait aussi pour penser à tout quand on part plusieurs mois, comment on gère la nourriture, le logement, les finances. 0810 055 056 pour nous raconter votre voyage d'aventurier. Jusqu'à 22h, on se dit tout en compagnie de Bertrand Lanneau, co-auteur de Drive Your Adventure avec Elsa Frindic-Pierret. C'est aux éditions de La Martinière et nous partons maintenant en Alsace avec Anne. Bonsoir Anne.
Oui, bonsoir.
Alors vous êtes revenue, c'était qu'en mi-décembre, d'un road trip de 6 mois.
Voilà.
Vous êtes parti où ? Racontez-nous.
Alors, on est parti en famille, donc, avec deux enfants. On est parti en Amérique du Nord, au Canada, pendant 3 mois, et ensuite aux États-Unis pendant 3 mois.
Et vous étiez en van, comme nos grands témoins.
Exactement. On a fait traverser notre van, par l'Atlantique, et on est passé par avion. Et donc, on s'est retrouvés, sur la côte est du Canada.
Alors on va parler du van un peu parce que c'est quand même aussi, c'est Patrick hein, dans votre livre Bertrand, c'est comme ça que vous l'avez surnommé votre van.
C'est ça.
C'est vrai que c'est particulier, là vous étiez 4, Anne 5 avec le van en fait.
C'est ça, en fait le van on l'a préparé, on l'a acheté déjà donc plusieurs années avant quoi pour qu'il corresponde vraiment à nos attentes. Donc on en avait déjà d'autres avant, donc on savait exactement ce qu'on voulait. Donc c'était un petit espace et en même temps c'est absolument super parce qu'on part avec très peu de choses et on se rend compte qu'on n'a pas besoin de grand chose. Voilà, en termes de.
Même avec deux enfants, ils ont quel âge vos enfants ?
Donc 6 et 10 ans.
Ouais, 6 et 10 ans, c'est facile de leur dire on prend des vêtements, un crayon, un cahier et on n'emmène pas tous les jouets de la maison ?
Voilà, c'est ça. Il y a des choix à faire, des petites choses en priorité, des petits jeux, mais tout est petit, hein. Ça c'est sûr.
Il faisait combien votre van, Anne ?
J'ai pas compris, pardon.
Et en superficie, il faisait quoi le van ?
7 mètres carrés à peu près, ouais.
D'accord. Vous, c'était 6 mètres carrés. Je me dis déjà à deux, c'est serré. À 4, comment on fait, Anne ?
On vit au maximum dehors. Donc c'est un peu la règle, on essaye de manger au maximum dehors, on s'habille quand il fait un peu frais, on s'organise, c'est pas toujours évident non plus, hein, mais de vivre au maximum dehors, donc c'est quand même la clé pour faire baisser les tensions.
Oui, on le voit bien dans vos photos d'ailleurs, Bertrand, c'est des photos, soit vous dormez, soit vous vous réveillez, soit vous vous posez, mais on ne vit pas dans le van, effectivement.
Ah, on essaie de vivre le moins possible dans le van. Le fait de voyager comme ça, comme le disait très bien Anne, ça permet d'avoir un nouveau jardin tous les jours et tous les soirs, et c'est un sentiment de liberté qui est extraordinaire, et du coup, le fait d'avoir l'extérieur comme ça qui nous est offert, et très souvent en plus de manière gratuite, ben, on essaie d'en profiter un maximum et d'être dehors le maximum.
Comment vous aviez préparé ces 6 mois, Anne ? C'était tout bien planifié ou il y avait une place un peu à l'imprévu ?
Alors, on a mis à peu près 1 an à tout planifier. En fait, j'avais assez bien travaillé. Donc moi, je suis le copilote. Donc c'est moi qui me suis penchée sur les cartes, sur les visites à faire, etc. Donc en fait, on avait à peu près planifié la première partie, les 3 premiers mois. Et puis faute de temps, en fait, j'ai pas du tout le temps de planifier la seconde partie. Donc les États-Unis. Et là, c'est vraiment en fait presque un autre voyage qu'on a mené parce que déjà, il nous manquait des guides, hein, c'était un hasard. C'était pas très voulu tout ça, mais en fait, on a été un peu plus vers les autres pour demander qu'est-ce qu'il y avait à faire et ça crée aussi des rencontres tout ça.
C'est pas mal aussi de se laisser guider, de prendre des chemins qui sont pas forcément balisés, Bertrand.
Oui, complètement. Nous, on avait fait un petit peu pareil. On avait préparé, une immense carte d'Europe sur lesquelles on avait mis plein de points qu'on voulait aller voir. Et au final, on a très peu respecté cette carte-là. Il y avait quelques points clés qu'on voulait aller voir. Mais les 3/4 du temps, on essayait d'aller dans les offices du tourisme locaux et demander ce qu'il y avait à faire ou demander à des gens s'ils avaient des connaissances à droite à gauche ce qu'ils pouvaient faire ou au gré des rencontres tous les jours. Et c'est toujours mieux d'avoir un avis des personnes locales. Nous, c'est notre ressenti après le voyage d'avoir des personnes locales plutôt que d'aller nécessairement dans un office du tourisme ou prendre un guide.
Alors je sais que la question est difficile, Anne, mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ces 6 mois de road trip en famille ?
Bah, qu'est-ce qui reste, c'est quand même, juste l'envie de repartir parce que finalement c'était une liberté qu'on n'a pas quand on est dans le train-train quotidien et dans les contraintes, on a vécu comme dans une petite bulle durant 6 mois, loin de l'actualité aussi, hein, qui nous prend et voilà, c'était juste... et puis de vivre des choses intenses avec ses enfants pendant 6 mois, c'était fort.
Des enfants, voilà. Au niveau de l'âge, c'est le bon âge pour partir, 6 et 10 ans. Il n'y a pas eu des moments où ils vont dire « Oh là là, vous êtes relou, on veut rentrer à la maison ». Non, ça ne s'est pas produit.
Non, ça ne s'est pas produit. Après, il y avait effectivement le manque de la famille. Donc, on a entretenu toujours donc le lien par téléphone, par blog, etc. Et puis avec les copines de l'école, c'est aussi quelque chose à prendre en compte parce que c'est long quand même, 6 mois même. Et puis donc on a gardé des liens avec l'école avec qui on correspondait. Enfin voilà, c'était.
Vous leur faisiez l'école en même temps à vos enfants ?
Oui, oui, oui.
Non, mais ça c'est quelque chose à prendre en compte hein, quand on part avec des enfants.
Oui, tout à fait. Et en même temps, donc on a manqué qu'un trimestre. Et puis c'est vrai que. Donc c'était un peu le voyage de notre vie et puis on se disait c'est pas trop prioritaire non plus parce qu'il y a tellement d'autres découvertes à faire.
C'est l'école de la vie.
Exactement. Et puis elles ont appris tellement sur l'histoire du Canada, des États-Unis par les rencontres, par les visites que finalement elles ont appris autant.
Qu'à l'école, voire plus même.
Qu'à l'école, voilà.
Bertrand Lanneau, quand on entend Anne qui dit on n'a qu'une envie, c'est de repartir, c'est normal. Vous aussi, vous l'avez eu ça ?
Je pense que si on a aimé, le fait de partir, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner, parce que, à très juste titre, comme elle le disait, c'est cette sensation de liberté qu'on peut très difficilement expliquer si on n'a pas vécu la même chose. Et je sais pas, malheureusement, j'ai pas les connaissances, mais par exemple d'être parti en stop comme l'avait fait Rockin' Robin avant, ou en sac à dos, là, d'être en van, c'est un confort. Mais un confort qui permet une liberté extraordinaire et d'aller vraiment partout.
S'il fait pas beau, on sait qu'on peut quand même s'abriter, qu'on aura toujours un endroit où dormir et en même temps on peut bouger sur des longues distances.
Et nous on avait fait un voyage avec Interrail en Europe bien avant de partir en van. C'était génial de partir avec un sac à dos, c'est moins confortable, c'est clair et net. Là, partir avec un van, on a sa maison sur roue. C'est pour ça que nous, on a voulu lui donner un petit nom et que généralement, les gens qui leur donnent un petit nom, c'est parce que ça devient une personne à part entière. Dans le
Il avait un nom, votre van, Anne ? Vous l'avez baptisé ?
Donc la baleine, en fait.
La baleine.
C'est une baleine. parce que c'est un van avec un toit fixe, avec une réhausse fixe, et donc elle a une forme d'une baleine à bosse. Donc ce sont des amis qui ont donné ce nom-là, et voilà, donc ça a été adopté, la baleine.
C'est mignon ça, la baleine pour vous, Patrick pour vous, Bertrand, hein, c'était mignon Patrick aussi.
Oui, c'est venu d'un, c'est très bête, hein, c'est juste que c'était un California Coast, c'était le nom du modèle, et on cherchait un nom avec des amis, etc. Et nous deux, petit à petit, on a pensé, c'est un California Coast, il y a des planches de surf, quel est le film culte de surf, c'est Point Break, et quel est le personnage culte, c'est joué par Patrick Swayze, par feu Patrick Swayze. Et du coup, on l'a appelé comme ça.
Patrick.
Et on s'est rendu compte, en plus, avec un peu de chance, que le premier pays visité, c'était le pays de Saint-Patrick avec
l'Irlande.
Mais
oui, avec l'Irlande. Bah oui, ça tombait bien.
Le hasard fait bien les choses.
Merci beaucoup, Anne, d'être venue témoigner ce soir dans On se dit tout. Et bon préparatif pour peut-être un nouveau road trip dans un an ou dans deux ans. Parce que ça se prépare, on l'entend bien, on part pas non plus comme ça, à l'improviste. Et peut-être que vous l'avez fait aussi. Vous l'avez vécu, vous êtes en plein dedans dans les derniers préparatifs. Venez nous raconter votre histoire à vous au 0810. 055 056. Nous parlerons tour du monde dans un instant avec Angela dans la région nantaise.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
Road trip, tour du monde, c'est le sujet dont on se dit tout jusqu'à 22h avec deux grands témoins. En première heure, Bertrand Lanneau. En deuxième heure, Elsa Frindic-Pierret, co-auteur de Drive Your Adventure aux éditions de La Martinière. Et on vous écoute surtout nous raconter vos histoires comme Angela qui nous appelle depuis la région de nantaise. Bonsoir Angela.
Bonsoir.
Vous êtes partie en famille aussi à 4 pour un tour du monde de 6 mois.
Tout à fait, on est partie donc avec nos deux enfants, nos deux filles de 10 et 14 ans, à road trip du mois de juin jusqu'à décembre, qui nous a amené à traverser, on est parti de la Californie jusqu'au Mexique, et après on a traversé toute l'Amérique du Sud, donc de l'Équateur jusqu'à la pointe sud de la Patagonie.
Ah oui, quand même. Là, vous avez traversé le monde, en fait. Hein.
Voilà, tout à fait, oui.
Vraiment. Comment vous avez pris la décision? C'est quoi le... Vous vous rappelez du moment où vous vous êtes dit, tiens, si on partait 6 mois, il s'est passé quelque chose?
Alors, en fait, c'est un rêve que j'avais en moi depuis toute petite, en fait. Et mon mari n'était pas forcément très... était assez pragmatique et voyait plutôt ça comme un idéal. Donc j'ai régulièrement essayé de contaminer un petit peu toute la famille pour que ça devienne en fait un projet familial. Et on a pris la décision, je dirais, en juillet l'année dernière, après une vie professionnelle très 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 mouvementée. On avait envie de faire une pause en fin de compte dans notre vie, se recentrer aussi sur nous, sur notre famille. En juillet, à peu près un an avant de partir, donc on a pris la décision de partir et après, donc pendant un an, on a travaillé sur la préparation de ce voyage.
Ça s'est bien passé pour votre conjoint parce qu'il avait l'air un peu tendu par rapport à vous.
Voilà, tout à fait. Il s'est préparé lui aussi petit à petit à cette expérience. Et puis ça a été un voyage. On a eu que de belles expériences. On n'a pas eu aucun souci. On a vécu un tremblement de terre dans les choses les plus négatives qu'on a pu passer. Mais sinon, pendant ces 6 mois, ça a été que du bonheur. Quoi.
Vous êtes parti comment? C'était quoi vos moyens de transport, j'ai envie de dire?
Alors on a fait beaucoup. On a fait l'avion forcément pour les grandes destinations. Sinon, on essayait au maximum d'utiliser les transports en commun. Donc, on a fait énormément de bus, surtout en Amérique du Sud. On a quasiment traversé du Pérou jusqu'en Argentine. On a tout fait en transport locaux, ce qui était aussi le plus économique et puis le plus pittoresque pour partir à l'extérieur du pays. Donc, ça a été aussi une expérience dans le voyage, les transports en commun. Donc, j'avoue que maintenant, c'est vrai que les enfants sont un petit peu marre de tous ces transports locaux et bus, mais bon, ça faisait partie de l'expérience aussi.
Bah ouais, c'est beau, hein, c'est beau de le faire en famille, c'est beau de le préparer aussi. 6 mois, alors là, c'est une énorme traversée, Bertrand. Je vous voyais faire des yeux genre, waouh, tout ça, de la Californie jusqu'à l'Asie, c'est énorme. Hein. Vous, c'est le temps que vous avez passé pour découvrir l'Europe.
C'est ça, on a fait au final, malgré tout, 35 000 kilomètres. En 6 mois, et on a conduit quasiment tous les jours. Il y a, je crois, 4 jours où on n'a pas conduit sur 6 mois. Et là, je me dis, 6 mois, faire tout ça, bravo, parce que il faut tenir le rythme. Et je pense que vous avez dû voir beaucoup, beaucoup de choses différentes et rencontrer beaucoup de gens différents.
Il y en a eu des rencontres, oui, des rencontres dont vous vous souvenez, Angela, où vous dites, waouh, ça, c'était vraiment un grand moment. Angela.
C'est vrai que sur l'ensemble des pays, alors c'est vrai qu'on ne voulait pas non plus tomber dans l'excès, dans la consommation. Donc on essayait quand même de pas trop bouger, c'est-à-dire d'avoir deux ou trois points d'attache dans chaque pays, de pouvoir sillonner autour, de manière aussi pour pouvoir tenir la distance aussi avec les enfants sur 6 mois. Donc c'est vrai que sur l'ensemble du voyage, je dirais que dans chaque pays, il y a eu des expériences magnifiques, mais surtout en termes de paysage, en termes de paysages qui sont des choses absolument extraordinaires dans chaque pays, et des rencontres. Alors à chaque fois, les rencontres étaient surtout facilitées dès qu'on prenait l'option de dormir chez l'habitant, où là, il y avait un vrai contact qui s'établissait avec notre logeur. C'est là où on avait les moments les plus riches. On a dormi, par exemple, chez l'habitant. Je me souviens, chez l'habitant, dans une famille au bord du lac Titicaca. Donc là, on a vraiment échangé aussi avec eux. Il y a eu des habitants, enfin, il y a un habitant à Cusco aussi. Donc voilà, c'est... Beaucoup d'étrangers, aussi beaucoup de Français qui faisaient le tour du monde, donc on pouvait aussi échanger nos impressions. Donc il y a aussi bien des rencontres locales que des gens aussi qui partaient à l'aventure pour quelques mois ou quelques années aussi.
C'est important ça aussi de se dire qu'il y a des Français qu'on peut croiser sur son chemin, Bertrand. Ça a été le cas pour vous en Australie, ça a été le cas aussi pendant ce tour d'Europe.
Alors ça a été essentiellement le cas en Australie, où il y a énormément de Français, dont certains qui sont nos meilleurs amis aujourd'hui. On a réussi à garder très bon contact avec certains d'entre eux. Là, en Europe, on en a rencontré un peu moins. On a rencontré beaucoup d'Allemands. Et on a rencontré, je pense, le plus de Français. On a dû les rencontrer, ça devait être au Portugal. Parce que ça reste une destination très facile d'accès, oui, en termes de vie en van, notamment. C'est très ouvert. Vu qu'il y a une culture du surf qui est très importante, ils savent, c'est peut-être un petit peu cliché, mais ils savent qu'il y a beaucoup de surfeurs qui viennent et c'est toléré, complètement toléré, et les gens respectent. Mais c'est là qu'on a rencontré le plus de Français, en tout cas.
Merci Angela d'être venue témoigner ce soir sur France Bleu. On vous embrasse et on salue toute la petite famille et votre mari, hein, parce qu'il a été courageux. Hein. C'était pas son truc au départ. Dans un instant, nous serons avec Pascal, qui a beaucoup voyagé dans plein de pays d'Europe, mais toujours avec une seule contrainte. Pas d'argent, il nous racontera ça dans un instant. Et vous aussi, venez nous raconter vos road trips, votre façon à vous de voyager différemment au 0810 055 056.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Vous avez loué ou acheté un van, vous êtes parti à l'aventure pour sillonner les États-Unis ou l'Asie. Racontez-nous votre road trip, les rencontres, les difficultés, peut-être sur place aussi, les grands moments, les doutes. On parle des voyages ce soir, les voyages différents quand on décide de tout quitter pour plusieurs semaines, plusieurs mois, et de partir avec le minimum quand on dort dans sa voiture ou chez l'habitant, quand on se débrouille un petit peu comme on peut. 0810 055 056, et Pascal est avec nous depuis Paris. Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
Vous avez beaucoup voyagé dans plein de pays, en Europe, en Afrique du Nord, mais toujours sans argent.
Presque toujours, ou alors avec très peu.
C'était vraiment une contrainte que vous vous êtes imposée, ou c'est parce que vous n'en aviez pas d'argent et qu'il fallait se débrouiller ?
Non, c'est parce que j'en avais pas. Et quand j'étais jeune, je me suis dit, si j'attends d'être riche, je voyagerai jamais, comme j'ai envie. Et bon, j'étais passionné de cultures étrangères, de langues étrangères. Je me suis dit, il faut que j'y aille sans argent, quoi.
Et ça marche?
Ça marche, même si c'est difficile parfois. C'est un peu rude. Hein. Quand on arrive dans un pays étranger pour la première fois de sa vie, qu'on n'a pas un centime sur soi, qu'on connaît pas la langue, qu'on connaît personne, qu'on se retrouve dans la rue, c'est pas évident.
Qu'est-ce qui fait que ça peut fonctionner ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes allé vers les gens ? Comment le contact a pu s'établir ? Parce que si vous l'avez beaucoup fait, ça veut dire que c'est possible de le faire, Pascal.
Bon, d'abord, il faut y croire. Moi, je me suis dit, il y a plein d'étrangers qui viennent en France sans papier, sans argent, qui ne connaissent pas la langue. Et ben, ils arrivent bien à se débrouiller. Je ne vois pas pourquoi je pourrais pas faire la même chose ailleurs, premièrement. Ensuite, j'étais... comment dire ? Oui, il faut y croire. Il faut y croire.
Mais financièrement, comment vous avez fait ? C'est ça que j'ai besoin de savoir. Alors, pour donner peut-être des conseils aux autres,
hein. Alors, il y a une différence entre les pays riches et les pays pauvres. Quand on arrive dans un pays riche, les gens sont beaucoup moins accueillants, mais il y a du social, etc. Donc, on passe par le parcours, on arrive, on est comme on est étranger, on rentre dans des cases au niveau social, et on mange dans les soupes populaires, on dort dans les foyers, etc. Et puis, petit à petit, on apprend la langue, on peut trouver un petit boulot, etc. Tandis que dans les pays pauvres, c'est différent. Là, il vaut mieux arriver avec un tout petit peu d'argent, si possible, parce que les gens sont pauvres. Mais du coup, dans les pays pauvres, les gens sont beaucoup plus accueillants, chaleureux. Tout de suite, ils vous invitent chez eux, à manger, à dormir, ils partagent tout. Enfin, voilà, quoi.
C'est pas la première fois qu'on l'entend depuis le début de cette émission. Quand vous partez, vous savez quand vous partez, vous savez pas quand vous revenez, Pascal?
Ah, je sais pas où je vais, ni comment ça va se passer. Parfois, je pars une semaine et je reviens 3 ans plus tard.
Oui, d'accord. Qu'est-ce que ça vous apporte? Parce que vous avez parlé là des échanges, c'est pas toujours très joyeux. Hein. Il y a des pays où c'est pas forcément, vous n'êtes pas forcément très bien accueillis. Mais au final, qu'est-ce que vous en retirez, vous, Pascal?
Qu'est-ce que j'en retire? Mais c'est incroyable. J'ai développé mes instincts animaux, d'intuition, que j'aurais pas développé en menant une vie rangée en France. J'ai appris plein de langues. J'ai pratiqué plein de cultures différentes avec les gens. J'ai connu des religions différentes, des mentalités différentes. Bon, j'ai aimé des femmes dans tous les pays.
Oh, le vénard. C'est bien ça. Moi, j'aimerais qu'on revienne, Bertrand Lanneau, à cette notion de on n'est pas obligé d'avoir beaucoup pour être bien. On le voit hein, dans votre aventure pendant 6 mois. C'est rudimentaire, votre façon de vivre aussi. On mange avec ce qu'on trouve, on mange local, on se débrouille pour la toilette, on n'en fait pas des caisses, on n'a pas une trousse de toilette remplie.
Non, alors nous, c'est vrai que par rapport à Pascal, on était quand même dans un grand luxe. Le van que nous avait fourni WeVan était très très bien équipé. Après, oui, c'est vrai que c'est cette sensation de sobriété heureuse propre à Pierre Rabhi, c'est très important. Ça a toujours été important pour nous et c'est très important. Ça l'est encore plus depuis qu'on est rentré. On se rend compte que moins on en a, moins on se crée de problèmes inutiles. Et qu'on fait très bien, on s'adapte très très bien, très facilement.
Alors moi j'ai noté un savon noir, c'est ça, hein, pour se laver.
Ouais, c'était du savon liquide, je crois qu'il faisait 1 kilo ou 500, c'était 1 litre. C'était 1 litre de savon noir liquide qu'on avait, qu'on a utilisé. On s'est douché, une fois tous les 3-4 jours en moyenne. Ça nous a tout de suite suffi. Mais c'est... Après, c'est un rythme qu'on garde aussi, qu'on essaie de garder et qu'on a gardé plus ou moins dans la vie de tous les jours et qu'on avait avant, qu'on avait depuis l'Australie, voire même avant. C'est d'être plus simple. On a un corps qui est fait pour se défendre. Et au début, ça peut être un petit peu délicat, mais très rapidement, le corps il s'adapte.
Je sais plus qui racontait ça en fait, qui avait marché pendant des semaines dans le désert et qui sentait pas mauvais en fait, parce que le corps effectivement s'habitue et tout s'habitue, tout s'adapte.
C'est ça. Après, il y a 2 poids 2 mesures. Hein. Il faut quand même.
Oui, il y a des gens qui sentent sous les bras, c'est vrai.
C'est ça.
Mais voilà. Pas toujours.
Mais on essayait de faire dans ces cas-là, si on sentait sous les bras et qu'on n'avait pas la possibilité d'avoir une douche à disposition, on faisait avec des produits le plus naturels possible pour pas. Pour nous déjà, pour notre corps et pour la planète aussi surtout, essayer de rester dans un cadre le plus écologique, on va dire, possible.
Le livre s'appelle Drive Your Adventure, guide d'un road trip en van aux confins de l'Europe et on parle jusqu'à 22 heures de road trip, de voyage. Merci beaucoup Pascal d'être venu témoigner ce soir.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Vous avez toujours rêvé de partir, de voyager avec juste un sac à dos et vous l'avez fait. Bon, vous n'aviez peut-être pas juste un sac à dos, mais bon, l'idée était là. Les road trips, c'est le sujet dont se dit tout ce soir avec vos expériences de plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Loin de chez vous, en immersion totale, ouvert aux rencontres. Ça peut se faire en France. On n'est pas forcément obligé de partir au bout du monde pour vivre de belles histoires. Venez nous rejoindre et venez nous raconter votre façon à vous différente de voyager en aventurier au 0810 055 056. Elsa Frindic-Pierret est notre grand témoin pour cette deuxième heure. Bonsoir Elsa.
Bonsoir Vanessa.
C'est bien aussi d'avoir le côté féminin de l'aventure. Hein. C'est vrai. Exactement. Que c'est intéressant aussi. On va accueillir Guy en Normandie. Bonsoir Guy.
Bonsoir, bonsoir à vous deux, oui. Alors donc, en 1991, je suis parti avec mon ami de Trouville sur mer jusqu'en Norvège en autostop. Et là, sac à dos et toile de tente. Hein. Donc nous avons traversé la Belgique, la Hollande, Allemagne, Danemark, Suède et bien entendu Norvège au point final. Hein. Et donc nous campions à l'époque, au bord de mer, dans les forêts, au bord des lacs, tout ça. C'était merveilleux. Hein. C'était vraiment la nature sauvage dans le nord de l'Europe.
Hein. L'aventure, vraiment, là.
Oui, l'aventure, oui.
Vous avez toujours trouvé du monde pour vous emmener d'un point A à un point B?
Oui, il y avait pas de problème. Il y avait, on pouvait toujours. Il faut se préciser que l'autostop dans les pays nordiques, c'est très difficile. Hein. Ça nous est arrivé d'attendre 12-15 heures parfois, quelquefois plus. Il y a un endroit en Norvège, on est resté 2 jours à la même place. Nous avons rencontré une jeune femme israélienne qui passait ses vacances, là, qui avait un appartement, qui était très gentil, qui nous a hébergés. Hein. C'était très 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 gentil de sa part, mais c'était rare. Hein, de toute façon, dans les pays riches, les gens sont beaucoup plus distants que dans les pays pauvres, hein, parce que je voyageais dans les pays pauvres. Par exemple, les Indes, ils sont plus accueillants. Dans les pays nordiques, c'est vrai que tout le monde est riche. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais ils ont un niveau de vie supérieur. Donc,
c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on a moins, c'est là où on donne le plus.
Oui, c'est justement. Hein. Bon, cependant, les gens étaient quand même que nous avons rencontrés étaient quand même gentils. Hein.
Oui.
Il n'y avait pas d'hostilité.
Guy, dites-nous un petit peu ce que vous avez vu en Norvège, parce qu'on va parler des paysages dans un instant avec Elsa. Mais vous, qu'est-ce que vous en gardez de ces paysages norvégiens?
Bah, c'est des paysages. Certains paysages sont presque intacts. Hein, ils sont pas trop défigurés. De toute façon, c'est encore un petit peu préservé. De toute façon, la Norvège notamment. Hein, il y a beaucoup de lacs, de la forêt hein, à perte de vue. De la montagne, des fjords, le fameux Gerringer Fjord, par exemple, un des plus célèbres de Norvège. Hein, de toute façon, moi, j'ai trouvé merveilleux parce que on est arrivé en plein été. Hein, et le soleil ne se couchait pas. Hein, on voyait le soleil disparaître derrière les montagnes et aussitôt, il réapparaissait. Hein.
C'est une des spécificités hein, des pays nordiques. Je vous coupe 2 secondes, Guy, pour laisser la parole à Elsa. Juste avant qu'on accueille Guy, on savait qu'on allait parler de la Norvège. Et là, vous m'avez dit, waouh, la Norvège, ça a été vraiment un coup de foudre pour nous.
C'est un vrai coup de foudre au niveau des paysages, comme le dit Guy. C'est, je crois, le pays où tout était plus grand, plus immense, les montagnes, les fjords, tout est incroyable. C'est pas forcément là où on a fait nos plus belles rencontres, parce que en effet, comme l'a dit Guy aussi, c'est peut-être les gens sont un peu plus froids, un peu plus distants. On était en plein mois de juillet aussi. Il y a beaucoup de touristes et peut-être qu'ils en ont un petit peu marre aussi. Et par contre, on s'est régalé avec les paysages partout. Le soleil de minuit, ça dérègle complètement. C'est assez amusant à voir à quel point on dépend en fait du soleil. Quand on se couche, je me souviens, on a fini une rando. Il était, on savait pas quelle heure il était. On a dit bon, on va peut-être aller manger un petit bout. Mais en fait, il était 23h30. On pensait qu'il était 18h parce qu'il faisait toujours jour et que le soleil se couche, je sais même pas si on peut dire se couche, vers 2h, il rase en fait l'horizon et hop, il repart.
Remonte, quoi. Ouais, ça c'est vraiment...
Et c'est assez fou, comme tous les paysages en Norvège. La Norvège est un magnifique pays. Ouais.
Et dormir comme ça, la belle étoile, parce que c'était un peu le cas pour vous, Guy, dans les forêts, sur les plages, ça vous a jamais fait peur?
Non, je pense que les pays nordiques, c'est plus rassurant, notamment dans les pays comme la Norvège. Hein. Je pense que c'est pas un pays... Je sais pas trop que c'était un pays agressif. Hein. Ils m'ont paru, les Norvégiens m'ont paru des gens pacifistes.
On peut dormir partout alors, selon vous?
Notamment dans ce pays-là. Bon, de toute façon, dans certains pays, c'est plus risqué. Hein,
Oui. Dormir, ça ne peut pas être partout. Quand on est en van, Elsa, il faut faire attention. On ne peut pas s'arrêter n'importe comment. On ne peut pas s'arrêter partout non plus.
En effet, en van, il faut se renseigner d'abord, puisque chaque pays a une législation particulière par rapport au camping sauvage ou au fait de dormir dans son véhicule, de vivre dans son véhicule. Donc il faut se renseigner pour pas être en marge de cette législation-là. La chance qu'on a avec les pays scandinaves, que ce soit la Suède, la Norvège ou la Finlande, c'est qu'ils ont un droit qui s'appelle le droit de tout à chacun, où chacun peut dormir n'importe où, mais même dans le jardin de quelqu'un. Tout appartient à tout le monde. On l'a jamais fait, on n'a jamais dormi dans le jardin de quelqu'un.
Mais vous auriez pu.
On aurait pu, mais on aurait pu demander, et normalement la personne en face dit « oui, vas-y, installe-toi ». Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu On n'a pas eu énormément de problèmes, on peut se garer n'importe où et souvent on essaye de choisir un endroit où on a une jolie vue pour le lendemain matin.
Ah bah ça, on le voit bien dans le livre, hein. On se dit waouh, qu'est-ce que c'est beau. Comme quoi on n'est pas obligé de partir très très loin pour avoir des vues incroyables. On a la chance en Europe d'avoir une diversité aussi de paysages qui fait qu'on est tout de suite dépaysé, voilà, d'un pays à l'autre, ça peut changer complètement. Guy, merci beaucoup d'être venu témoigner de ce voyage, ce road trip sac à dos et stop en Norvège en 91. On parle des aventures, des voyages ce soir dans On se dit tout. Vous aussi, racontez-nous votre aventure en solo, en couple, en famille, avec des enfants, partir plusieurs semaines, plusieurs mois à l'étranger, partir avec un minimum de choses, hein, vivre différemment, vivre plus petitement aussi, mais en prendre plein la vue et revenir grandi, on peut le voir comme ça. Venez en parler jusqu'à 22h, n'hésitez pas, 0810 055 056.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
Partir à l'aventure, se donner 6 mois, un budget, un itinéraire à peu près et laisser le reste faire. Le reste, ce sont les surprises, les rencontres, les chemins sans panneau. Vous avez peut-être connu ça vous aussi, vous avez tenté l'aventure. Ce soir, c'est une spéciale road trip dans On se dit tout, à l'instar de nos invités qui ont passé 6 mois à travers l'Europe en van, mais peut-être que vous l'avez fait à pied, à vélo, en voiture, en camping-car, en stop. Peu importe, ce qui compte, c'est de savoir comment vous vous êtes organisé, ce que vous en avez retiré. 0810 055 056. On vous attend avec Elsa Frindic-Pierret, co-auteur de Drive Your Adventure aux éditions de La Martinière. Et c'est Sandra qui est avec nous maintenant dans le Périgord. Bonsoir Sandra.
Bonsoir.
Alors vous êtes partie toute seule, comme une grande.
Non, en fait, je suis partie à trois avec mon copain et une amie.
Moi, je croyais que vous étiez partie toute seule. Bon, tant pis, au revoir alors, Sandra. Je rigole. Vous êtes partie à trois. Bah oui, c'est pas du tout pareil.
Non, on est partie à trois. Une partie en road trip. J'avais déjà fait des road trips toute seule avant. On est partie en sac à dos, en Thaïlande, Laos, Cambodge, Indonésie, beaucoup. On est tombé amoureux de l'Indonésie et on est resté pendant plus de 6 mois. On est devenu instructeur de plongée et ensuite on est reparti en Australie à zéro et dans un van pendant un an et ensuite encore 3 mois en Inde en sac à dos. Donc ouais, c'était un périple de 2 ans, c'était une chouette aventure.
Comment ça se prépare ça, Sandra? Parce que pendant 2 ans on se dit il faut pouvoir subvenir à ses besoins aussi quand même.
Bah au début on avait un peu de sous pour subvenir à nos besoins et ensuite ça se fait au fil des rencontres. On a trouvé du travail dans plusieurs endroits. Enfin, moi, à la base, je suis infirmière, mais j'ai fait des boulots complètement différents. Bah, guide de plongée sous-marine, horticultrice, ramasseuse de pierres en Australie. Et ça se passe, en fait, ça paraît l'aventure comme ça, vu de l'extérieur. Mais en fait, quand on est ouvert et qu'on a plus ce poids de la société, tout se passe finalement...
Tout est simple, plus simple.
En fait. Oui, oui, très simplement, en fait.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie de partir aussi longtemps? Il y a eu un déclic? Il y a eu quelque chose? Une envie de changer
Non, pas vraiment. C'était un peu dans la liste des choses que je voulais faire dans ma vie. Je voulais voir comment on pouvait se débrouiller comme ça, loin de ses repères, et voir ce qui allait en découler. Et au final, c'était que du positif. Voilà, l'aventure de ne pas savoir on va se réveiller le lendemain, et puis aussi de plus être... sous le poids des choses à faire à la maison, de la paperasse. Enfin, c'est la vraie liberté, en fait. Une fois qu'on y a goûté, c'est très, très dur de revenir en arrière.
Vous avez envie de repartir, là, déjà?
En fait, ça m'a donné une petite envie de sédentarité. Donc, cultiver mon jardin, acheter une maison dans le Périgord, vivre simplement et, en parallèle, continuer à voyager. Et puis, finalement, on se rend compte qu'on peut vivre avec presque rien.
On y revient, Elsa, hein, avec ce presque rien, ouais. Ce côté, finalement, on n'a pas besoin de grand chose.
On revient à l'idée de la sobriété heureuse et je rejoins tout à fait Sandra sur nous, on a déjà voyagé 7 mois en Australie. Là, on revient de 6 mois de tour d'Europe. Je vais pas dire que les voyages, j'en ai marre. Pas du tout. J'ai envie de voyager toute ma vie. Mais, d'être nomade pendant 6 mois et de voir aussi de traverser autant de pays avec autant de maisons différentes. Les toits végétaux, en Norvège. Enfin, je me souviens des des pays plats, tout ce qui est Hollande, etc. Plein de choses. Et on se dit, moi, ma maison, j'aimerais qu'elle soit un peu comme ci, un peu comme ça. Je prendrais des petits bouts de chaque pays. Et puis, quand on rentre, en fait, on a bien envie de construire son nid et de vivre simplement, comme disait Sandra, de revenir un peu à la terre, à des émotions basiques, parce que c'est aussi ce qu'on vit sur la route. Tout ce qu'on vit est beaucoup plus fort, beaucoup plus... beaucoup plus intense parce que ça vient vraiment des tripes. La moindre contrariété va être beaucoup plus forte et le moindre petit bonheur sera aussi beaucoup plus fort. Et on a envie de continuer à vivre ce beaucoup plus fort dans notre quotidien.
C'est pas difficile à un moment de se retrouver tous les deux, tout le temps, 6 mètres carrés, hein, le van quand même. Il n'y a pas des moments où on se dit oh là, j'aimerais bien être avec mes copines, me faire un apéro en terrasse et parler trucs de filles. Là, on est vraiment l'un sur l'autre, même si l'immensité est belle, les paysages sont beaux.
Alors voilà, déjà on a de la place quand même, même si on est dans 6 mètres carrés, notre salon reste l'Europe entière, donc on a des grands espaces, on faisait aussi beaucoup de randonnées, on faisait beaucoup de choses où on n'était pas que l'un sur l'autre dans le van. Par contre, bon, on est un peu aussi à cause de la météo obligé de faire avec, donc quand il pleut 3 jours d'affilée, on est enfermé 3 jours d'affilée dans le van, parce que même si on part en rando sous l'eau, faut faire sécher, et dans le van c'est pas possible, tout devient humide du coup. Bon, on est un peu obligé, mais non, ça s'est bien passé, on a eu de ras-le-bol, parce qu'aussi on rencontrait plein de gens et c'était un peu ça nos petites bouffées d'air frais où tout d'un coup on avait plein de gens, on faisait la fête, on parlait d'autres choses, c'était pas que Bertrand et moi, c'était plein d'autres gens et non, ça s'est bien passé.
Il y a un pays, Sandra, en particulier, une culture en particulier qui a du mal à vous lâcher, à vous quitter encore aujourd'hui?
Oui, à l'Indonésie, ça a été un gros coup de cœur, c'est pas pour rien qu'on y restait 6 mois et ouais, c'est le peuple du sourire, c'est un pays magnifique, aussi bien au niveau de la diversité culturelle qu'au niveau des paysages. Je sais que c'est quand j'y retourne, c'est ma deuxième maison. Il y a la France et l'Indonésie.
Et l'Indonésie. Vous y êtes retourné depuis votre road trip alors?
Oui, on y est retourné et du coup on a maintenant plein d'amis là-bas et puis on se sent. C'est un deuxième chez nous, en fait. Quand on quitte cet endroit et quand on y retourne, on a la même émotion que quand on rentre en France ou qu'on quitte la France. Enfin, c'est...
J'aimerais qu'on revienne, Sandra. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez déjà fait des road trips plus jeunes toute seule. Moi, j'aimerais bien savoir comment on fait quand on est une fille, partir toute seule. Est-ce que c'est une autre façon de voir les choses aussi? Est-ce qu'il faut être un peu plus, faire un peu plus attention?
Oui et non. Après, si on commence à voir le danger est partout, même en France. Et je pense que quand on est prudent, mais quand même temps, on amène une bonne énergie, et qu'on est souriant et qu'on est ouvert, finalement les choses se passent assez bien d'elles-mêmes. En fait, ça fait peur de partir seul, mais je pense que c'est plus une peur irrationnelle qu'un vrai danger, en particulier à l'étranger. Enfin. Moi, s'il y a des gens qui veulent partir tout seul, je leur dis juste, allez-y, vous verrez bien comment ça se passe. Et que finalement, sur place, c'est beaucoup moins compliqué que tout ce qu'on peut s'imaginer.
Et il y a de plus en plus de filles, hein, Elsa, qui partent toutes seules et parfois des jeunes femmes aussi.
Oui, moi j'ai l'impression que c'est vraiment... justement, il y a moins cette peur-là de partir tout seul déjà et de partir tout seul quand on est une fille en plus, parce que la société fait que être une femme toute seule, on se dit que c'est plus dangereux. Mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de filles qui voyagent et moi ça me donne un peu envie d'essayer aussi, parce qu'à chaque fois je pars ou avec des amis ou avec Bertrand, et se retrouver seule, je pense, dans un environnement qui n'est pas le sien, qui n'est pas son environnement quotidien, c'est vraiment... Là, on est face à soi-même, face à comment on va réagir avec les gens, au paysage, tout ce qu'on va partager. J'aimerais bien tester ça, ouais.
Oui, parce que quand on est à plusieurs, finalement, bon, même si on ne va pas vers les autres, on a toujours notre petit clan, Là, c'est vraiment tout seul. On est obligé d'y aller vers les autres.
Là, on est obligé, ouais. Même si je pense qu'on fait partie des gens qui vont vers les autres parce que c'est ça qui nous touche le plus, quand on est tout seul, on n'a pas le choix. Moi, j'ai des amis qui étaient partis en Amérique latine et qui m'ont dit, pendant une semaine, j'ai parlé à personne parce que j'avais mon sac à dos, ça se passait pas bien, c'était pas une très très bonne semaine. Et je me mettais à faire des monologues avec le chauffeur de bus entre je sais plus quelle ville. Au Pérou, parce que j'avais besoin de parler et de partager. Et après, 2 jours après, elle rencontrait des personnes extraordinaires avec qui elle a toujours des contacts. Et c'est obligé d'aller vers les autres. Là.
Merci beaucoup, Sandra, d'être venue témoigner ce soir sur France Bleu. Bon repos sédentaire dans le Périgord avant peut-être un prochain voyage. On parle ce soir des road trips dans Se dit tout. Peut-être que vous venez de nous rejoindre à l'instant. Vous dites, c'est chouette, on voyage. voyage ce soir. Oui, oui, on voyage avec vous, on voyage avec vos expériences, avec vos conseils aussi. Comment faire quand on a envie de partir comme ça, à l'étranger, tout seul, en couple, avec des enfants, de vivre avec peu de moyens, de vivre pour plusieurs mois surtout, comme on fait surtout pour le préparer. 0810 055 056.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
On est parti en Australie avec Rockin' Robin, on est parti au Canada et aux USA avec Anne, on est parti sur un tour du monde de 6 mois avec Angela, on est parti dans plein de pays sans un sou avec Pascal, on est parti en Norvège avec Guy, on est parti dans plein de pays aussi, la Thaïlande, le Laos, l'Australie avec Sandra. Et avec vous, on part où? Vous nous emmenez où? Ce soir, on parle des road trips dont on se dit tout et on vous attend surtout au 0810 055 056. Notre grand témoin dans cette deuxième heure, c'est Elsa Frindic-Pierret, co-auteur avec Bertrand Lanneau de Drive Your Adventure aux éditions de La Martinière. Le carnet de route, en fait, de 6 mois de voyage à travers l'Europe. Beaucoup de kilomètres, beaucoup de rencontres et puis des petites traditions dans chaque pays. Il y avait des petites choses que vous aimiez bien garder.
Oui, on a essayé en fait dès le début, on s'est dit que pour rencontrer les gens, il fallait aller vers eux et pour aller vers eux, il faut pouvoir communiquer. Et pour ça, au début, c'était facile parce que l'Irlande, l'Écosse, l'Angleterre, bah, ça parle anglais. Même les pays d'après, c'était Belgique, Hollande, Allemagne, Danemark, tous les pays scandinaves, tout le monde parle anglais. Donc là, principalement, on était sur de l'anglais et on arrive aux pays baltes, aux pays de l'Europe de l'Est et là, faut improviser, faut faire plus de gestes, faut sortir l'application qui traduit tout, faut dessiner. Et nous, on faisait l'effort d'essayer d'apprendre bonjour, au revoir, merci et santé dans toutes les langues parce que ces 4 mots suffisent vraiment.
Oui, ça permet de commencer un dialogue, ça permet de créer un petit climat sympathique.
C'est ça, n'importe où on rentrait, on commençait par dire bonjour dans la langue, ça les fait un peu rire parce qu'on le dit mal. Ou alors des fois, je le disais tellement bien, c'était en Roumanie pour dire bonjour, c'est Buna Ziua. Et je le disais tellement bien que les Roumains m'enchaînaient en roumain après.
Ah oui, genre, non,
désolé, français, non, que Buna Ziua. Mais c'est, du coup, je pense que les gens sont plus sympathiques et plus ouverts quand on fait l'effort. Oui, on est touriste, on est dans un pays et c'est pas parce que tout le monde parle anglais que je vais te parler anglais. Ça se trouve, tu ne parles pas anglais, donc on va parler plutôt ta langue. Mmh. Et ça, c'était chouette. Je me souviens pas de tous les mots, malheureusement, mais on en a certains, oui, qui restent, c'est sûr, c'est marrant.
Il y a beaucoup d'images, beaucoup de photos, les photos que Bertrand a fait d'ailleurs, je crois, pour la plupart. Et il y a beaucoup de choses à manger dans votre livre. Ça, c'est aussi un livre très gourmand où on découvre les spécialités de certains pays, on découvre de comment vous cuisinez aussi sur des feux de camp, sur vos petites gamelles.
Exactement, oui, parce que ça fait aussi partie du road trip. Il faut bien manger et on mange pas au restaurant tous les jours. Et en plus, à quoi bon quand dans le van on a une petite cuisine? On peut tout se faire dans le van. Moi, j'ai cuisiné plein de choses. Oui, bon, c'est plus moi qui cuisine, j'avoue. Mais surtout, on essayait, oui, de goûter des choses dans les pays et d'apprendre à les cuisiner pour pouvoir après peut-être les partager sur le blog qu'on avait et puis maintenant dans le livre. Mais oui, qu'est-ce qu'on a mangé de un peu bizarre? Une panse de brebis en Écosse.
C'est marrant, je pensais la même chose, le haggis, tout de suite. Ouais, c'est très bizarre, ça.
Hein. Oui, c'est assez fort hein, en goût. Je sais pas qu'est-ce qu'on a pu manger de particulier. Le smørrebrød, c'est au Danemark, c'est ce pain noir très épais sur lequel ils mettent beaucoup d'ingrédients et c'est des parts toutes petites. Donc, j'avoue, quand ils me l'ont mis, je dis, ah bon, bah, je vais avoir encore faim. Et ben non,
ça cale bien.
Est vraiment hyper calme.
On va accueillir Elisabeth en Provence. Bonsoir Elisabeth.
Bonsoir.
Alors vous n'étiez pas en van mais en voiture et vous avez fait l'Europe toute seule en voiture.
Voilà, donc je fais soit un circuit, je commence un circuit comme l'année dernière, j'avais fait Chagall et en commençant dans le sud de la France et je me suis retrouvée sur Chartres, Reims et j'ai fini par la Belgique pour revenir par la Suisse. Et je suis toute seule et tout ça c'est pour c'est dans un but culturel, une autre façon de voyager pour se connaître aussi un peu devant certaines difficultés, s'il y a difficultés, mais les 3/4 du temps, pour ne pas dire 99%, c'est que du plaisir avec les gens et les paysages.
Vous dormiez dans votre voiture?
Je dors carrément dans ma voiture, ça surprend beaucoup de monde.
Vous l'avez aménagé, votre voiture, exprès?
Non, pas du tout. Et quand la personne qui a eu avant moi, qui disait que dans le van, ça ne se séchait pas, ben moi, j'ai pris des astuces de laver en laverie et sécher systématiquement. et les astuces quand en tant que femme seule, c'est moi je me déshabille pas complètement, pas admettons pour dormir, j'ai toujours le short, un t-shirt, que s'il faut réagir assez rapidement, les clés sous la main, enfin, voilà, des petites astuces comme ça que je fais pour quand je pars en vacances.
Et vous le faites tout le temps, vous partez tout le temps toute seule avec votre voiture, c'est devenu votre maison.
Oui, c'est ma maison.
Et vous n'avez pas eu envie de l'aménager, votre voiture, de mettre un matelas, d'enlever les sièges ?
À 56 ans, non.
Non, non, mais c'est pour vous, hein, c'est pour être plus à l'aise que je vous dis ça, Elisabeth.
Oui, 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 mais ben non, j'ai commencé à faire ça avec des copains, des copines, parce qu'on allait escalader un peu de partout, en Italie, en Espagne. Hein. Et puis après, il y a les relations qui se font, qui se défont, et j'ai continué ce mode de fonctionnement. Mes enfants sont venus avec moi, et voilà.
Merci beaucoup, Elisabeth, pour votre témoignage.
Merci à vous.
Bonne soirée, au revoir. Elisabeth disait de faire attention, elle était un petit peu pudique. Vous, c'est un peu le contraire, vous êtes découvert impudique pendant ce tour d'Europe, un peu.
Oui, je ne sais pas si on peut dire impudique, mais c'est vrai que petit à petit...
T'as un rapport différent au corps, peut-être.
Oui, voilà, on avait un rapport différent au corps, parce que c'est vrai, on se lave moins, on fait plus de choses, c'est ce que je disais, on est plus centré sur nous-mêmes, et du coup, tout d'un coup, on apprend qu'on peut aller à la plage sans forcément avoir de maillot de bain, le voisin non plus n'en a pas, mais on est tous fait pareil, et on oublie un petit peu cette gêne. Moi, j'ai jamais fait de nudisme, mais jamais. Hein. Et là, d'enlever le haut, déjà, c'était difficile pour moi. Et puis, je me souviens, au Portugal, on a fait une petite séance photo, alors en contraste, hein, donc on ne voit absolument rien sur la photo, mais c'était marrant de se prendre en photo tout nu au milieu de... On était face à la mer, c'était incroyable, on s'est dit bon bah voilà, c'est nous, Adam et Ève, la création du
retour
monde.
Retour aux origines. On parle des road trips ce soir dans On se dit tout, de vos voyages partis à l'aventure, en famille, en solo, en duo. Racontez-nous comment ça s'est déclenché, racontez-nous comment ça s'est organisé, racontez-nous les rencontres aussi sur place. 0810 055 056, juste jusqu'à 22h, à tout de suite.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Les road trips, c'est le sujet dont on se dit tout. Il y a ceux qui en rêvent et il y a ceux qui le font. Partir plusieurs semaines, plusieurs mois à l'aventure avec le strict nécessaire. Vivre différemment, faire des rencontres, se contenter de peu matériellement. Peut-être que vous connaissez ça vous aussi. Vous êtes partis comme nos grands témoins, en van, en camping-car. Vous avez voyagé de façon encore plus rudimentaire avec juste un sac à dos, ambiance Pékin Express. On en parle ce soir sur France Bleu et nous sommes avec Marcel dans le Berry. Bonsoir Marcel.
Bonsoir.
Vous êtes partie version sac à dos, toute seule.
Version sac à dos, ben parce que j'étais déjà un petit peu loin de chez moi. Bon, j'ai beaucoup voyagé ailleurs et en Europe avec le sac à dos, la voiture, un peu comme tout le monde vous racontait, là, dormir dans la voiture, faire des randos, etc., camper. Là, je me trouvais au Népal. Et à Katmandou, et un ami, j'arrivais un 28 juin, je me rappelle, et un ami me dit, bah, c'est dommage parce que je pars demain matin au Tibet, mais tu pourras me rejoindre si tu pars. Alors à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas les avions pour aller de Katmandou à Lhasa. Lui partait en bus local jusqu'à la frontière, et le lendemain matin, j'ai pris le bus local jusqu'à la frontière, et à la frontière, il n'était pas là, et je me suis dit, bon, bah, tant pis, je continue. Lui, il avait déjà un jour d'avance. Et pendant un mois, j'ai parcouru de Katmandou à Lhasa, à pied, en stop. Il n'y avait pas beaucoup de voitures. Je vous raconte ça, c'était en 86.
Donc, et il n'y avait pas de portable. C'est important de le dire aussi.
Il n'y avait pas de téléphone portable, de toute façon. Il n'y avait pas de téléphone au Tibet, sur les pistes. C'était le désert sur le plateau tibétain. Hein. On est à 4000, tout le plateau, et pratiquement 3800 mètres et 5000 mètres et 4000 mètres. 3800 à Lhasa.
Est-ce que vous avez aimé le fait d'être toute seule, le fait de finalement...
J'adore voyager toute seule parce qu'on échange, même avec, comme disait l'auditrice précédente, il faut apprendre quelques mots, donc j'avais appris un peu le népalais, mais là-bas au Tibet, c'était le tibétain, donc ça ne ressemble pas du tout. Et j'ai appris quelques mots de tibétain pour demander à manger, demander à dormir, de dire bonjour, au revoir, merci, et... j'ai été hébergé quelquefois dans des monastères et ma plus grande surprise, ça a été, puisqu'on m'avait invité un matin, à une cérémonie rituelle tôt le matin. Ça commence à 5h avec le bruit des trompes, enfin tout à fait un contexte différent de ce qu'on connaît, ce que je connaissais à l'époque. Et au cours de la cérémonie, j'ai dû boire le breuvage qu'on me présentait dans un bol en bois, et le breuvage était le fameux beurre de yak, le fameux
lait au beurre de yak,
et salé au beurre de yak. Et j'avoue qu'à jeun, à 6 heures du matin...
Oui, faut être bien accroché. Justement, j'aimerais vous demander, Elsa, est-ce que vous avez eu, vous aussi, des rituels, ou est-ce que vous avez assisté à des fêtes traditionnelles? Est-ce que vous faisiez attention de tomber dans certains pays, genre, ah, tiens, c'est telle fête nationale, c'est important?
Oui, on essayait, justement, c'était un peu des rendez-vous qu'on s'était mis en amont quand on... penser à l'itinéraire. Il y avait quelques points de rendez-vous de grands événements de pays qu'on voulait pas rater. Par exemple, le cheese rolling en Angleterre, où des gens se jettent d'une vallée très très pentue et essaient de rattraper un fromage qui roule. C'est n'importe quoi, mais ça existe depuis plus de 100 ans, je sais plus. Et tout le monde vient ce jour-là voir ces gens se jeter sur cette pente. Ça, c'était incroyable. En Finlande, on est arrivé en retard, mais il y avait le concours de portée d'épouse. Et donc, ça, on voulait absolument voir ça, mais on arrivait un peu trop tard. Et en fait, c'est un parcours où l'homme porte son épouse et à la fin, il gagne le poids de l'épouse en bière.
Cadeau.
C'est super. Et en Slovaquie aussi, on était dans un festival de la culture montagnarde. Et là, c'était un festival incroyable. Autant il y avait des concerts que de la dégustation de vodka, que de plein de choses. Et c'est à ce moment-là qu'on apprend plein de mots comme « camarade »,« ahoy », des trucs incroyables qui n'arrivent que dans ce genre d'événement parce que les gens sont plus ouverts. Et, ouais.
Et ils ont envie aussi de faire découvrir le côté festif aussi un petit peu.
Ils voient justement deux pauvres petits Français un peu perdus en plein milieu d'une fête d'un tout petit village. Ils disent « mais qu'est-ce qu'ils font là ? On devient un peu les stars du village, c'est très rigolo, tout le monde nous fait goûter à tout ». Non, c'était génial, super souvenir.
Marcel, merci beaucoup d'être passé par France Bleu ce soir et bravo pour ce road trip toute seule, en solitaire, au Népal avec votre sac à dos. On se dit tout, c'est presque fini, mais restez avec nous, on est là jusqu'à 22h.